Dans le cadre de leur émission Les Chemins de l'Histoire, Daniel et Jean Fleury vous présentent une série de trois émissions sur « Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux ?» Les journées sombres 1940-1941. Nous accompagnerons Serge Reggiani et sa célèbre chanson « Les loups », puis Léo Marjan avec son succès de 1941 « Je suis seul ce soir ».
Lors du week-end du 11 mai, organisé par la paroisse de la Fraternité à la Bécède, nous avons évoqué le courage de ceux qui, refusant le nazisme, vinrent se réfugier dans cette zone de l'Égual, mais sans oublier le courage de ceux qui les protégèrent au péril de leur vie et les alimentèrent parfois durant de nombreux mois. Se constitua ainsi patiemment ce qui allait devenir le maquis de l'Égual, aussi célèbre que ceux de l'Ain, des Glières, du Vercors, du Montmouchet ou du Limousin. Nous vous proposons de reprendre ici cette évocation. Même s'il y eut d'autres maquis en Cévennes, nous nous limiterons à cette zone au sud de la corniche des Cévennes, entre Florac, Meruès, Le Vigan, Ganges et Saint-Hippolyte. Et puis plutôt que d'énumérer les faits d'armes bien connus de tous, nous détaillerons les conditions de la mise en place difficile de ce maquis avec l'implication importante de l'Église protestante dans celle-ci.
Rappelons d'emblée qu'en Allemagne nazie, dès le synode clandestin de Barmen de mai 1934, une Église confessante regroupant luthériens et réformés s'était désolidarisée des Églises officielles contraintes d'adopter un paragraphe sur la supériorité arienne dans leur constitution. Dans son éthique, Dietrich Bonhoeffer dira « Le chrétien est lié par son devoir d'obéissance jusqu'à l'instant où les autorités l'obligent à manquer au commandement divin, où donc les autorités renient manifestement leur mission divine, où elles perdent ainsi le droit d'exiger. » Or, dès 1937, cette Église est persécutée. Tandis que Karl Barth se réfugie en Suisse, certains de ses membres rejoignent alors les brigades antifascistes allemandes réfugiées en France.
Publié en France par le Christianisme social ou la revue Foi et Vie du pasteur Pierre Maury, les positions antifascistes de la déclaration de Barmen influencent fortement le protestantisme français, ses pasteurs comme ses mouvements de jeunesse, scoutisme unioniste et UCJG avec la FEDE, Fédération française des associations chrétiennes, dont de nombreux anciens entreront dans les réseaux d'évasion de persécutés juifs ou autres et dans la résistance. Tout commencera réellement avec l'armistice en juin 1940 qui coupe le pays en trois. L'Alsace-Lorraine annexée, zone occupée par les Allemands et les Italiens et zone dite libre, gouvernée par Pétain, qui, le 10 juillet, a aboli la République et obtenu les pleins pouvoirs. La majorité de la population méridionale se rallie à ce héros de la Grande Guerre, pensant qu'il tiendra tête aux Allemands, mais très tôt, les tracts et journaux de la FEDE lui sont hostiles.
Par ailleurs, la Fédération protestante de France, fondée en 1905, souhaite que son président se fixe en zone libre. Élu en 1929, mais également premier président de l'Église réformée de France réunifiée en 1938, Marc Bögner s'installe donc à Nîmes, ici même, dans les actuels locaux de Radio Alliance Plus. Son vice-président, André Numa Bertrand, né à Milo, et de 5 ans son aîné, demeure, lui, à Paris.
C'est donc de Nîmes que, dès septembre 1940, Bögner soutient le projet d'action de la CIMADE récemment créé par Suzanne de Dietrich de la FEDE pour accueillir des réfugiés alsaciens dans le sud-ouest, puis avec Madeleine Barrault et Jeanne Merle d'Aubigné, dans les camps d'internement, tel celui de Gurs, où sont regroupés les Espagnols, des Allemands, des Autrichiens, des Polonais, souvent juifs, qui avaient demandé l'asile à la France. Le 23 décembre 1940, après le limogeage de Laval, Buckner adresse une lettre aux 8 présidents de région de l'Église réformée de France, de la zone libre, pour rappeler que pour l'Église, il n'y a pas de problème juif, et que l'Église a le devoir de rappeler à l'État que de son autorité, dont le fondement est Dieu, doit s'exercer pour le bien de tous ses ressortissants, dans une volonté de justice et dans le respect des personnes.
Notons également, même si c'est alors une exception dans le clergé catholique, que l'archevêque de Toulouse, Mgr Saliège, et l'évêque d'Albi, Mgr Moussaron, soutiennent Bruno de Solages, recteur de l'Institut catholique de Toulouse, qui y protège des juifs et refuse les financements de Vichy.
En janvier 1941, pour cautionner sa révolution nationale, Pétain tente de s'attacher Buckner en le nommant représentant des églises protestantes du Conseil national. Buckner multiplie alors les interventions auprès du gouvernement en faveur des personnes regroupées dans les camps d'internement. Il réunit à Nîmes un comité de coordination des organisations autorisées par Vichy à entrer dans les camps pour l'assistance, telle la Croix-Rouge française et internationale, les Quakers, Young Men's Christian Association, Secours Suisse aux enfants, la CIMAD et des organisations juives. On y rencontre les Genevois pour examiner les possibilités de recours et en coulisses circulent les fonds venant de Suisse et des informations censurées dans la presse. Ce comité sera dissous avec l'occupation de la zone sud, mais aura créé des réseaux utiles au futur travail clandestin et des filières d'évasion vers la Suisse. Le secrétariat de la CIMAD à Nîmes assurera la fabrication de faux papiers et ses équipiers, principalement des équipières, seront souvent des passeurs jusqu'en 1944.
Tandis que l'évêque de Nîmes, Jean Girbeau, reste muet et que celui de Mende, Mgr Ovity, publie encore en 1942 « Nos devoirs vis-à-vis du pouvoir civil », le 26 mars 1941, Buckner écrit deux lettres au nom de l'Église réformée de France. L'une, en vain, à l'amiral Darlan, vice-président du Conseil national jusqu'en avril 1942, l'autre, au grand rabbin de France, Isaïe Schwartz, dans laquelle il déplore la mise en place d'une législation raciste. Notre Église, qui a jadis connu les souffrances de la persécution, ressent une ardente sympathie pour vos communautés, dont, en certains endroits, la liberté du culte est déjà compromise et dont les fidèles viennent d'être si brusquement jetés dans le malheur. Elle a déjà entrepris et ne cessera pas de poursuivre les démarches en vue d'une refonte indispensable de la loi.
Mais dès mai 1941, Vichy commence à réprimer des milieux communistes et les premiers embryons de résistance. Or, c'est à Nîmes qu'il convient de rechercher ses tout premiers réseaux clandestins, issus de milieux variés, longtemps parallèles, voire rivaux.
Et si c'était une nuit comme on n'en connut pas depuis 100 000 nuits? Une nuit de fer, une nuit de sang, une nuit... Un chien hurle. Regardez bien, gens de l'enfer, regardez-le. Sous son manteau de bronze vert, le lion tremble. Les hommes avaient perdu le goût de vivre et se foutaient de tout. Leur mère, leur frangin, leur nana, pour eux c'était que du cinéma. Le ciel redevenait sauvage. Le béton bouffait le paysage d'alors. Les loups, les loups étaient loin de Paris, en Croatie, en Germanie. Les loups étaient loin de Paris.
j'aimais ton rire, charmante Elvire, les loups étaient loin de Paris. Mais ça fait ses 50 lieues dans une nuit à queue-leu-leu, dès que ça flaire une ripaille de mort sur un champ de bataille. Dès que la peur hante les rues, les loups s'en viennent la nuit venue. Alors, les loups, oh, 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 les loups ont regardé vers Paris, de Croatie, de Germanie. Les loups ont regardé vers Paris, oh, tu peux rire, charmante Elvire, les loups regardent vers Paris. Et v'là qu'il fit un rude hiver, sans congestion en fait d'hiver, volets clos, on claquait des dents, même dans les beaux arrondissements. Et personne n'osait plus le soir affronter la neige des boulevards. Alors...
Et nous voilà arrivés aux premières résistances à Nîmes. La première, vers novembre 1940, se créent deux réseaux de résistance autour de journaux. À Lyon, avec le journal La Vérité, le mouvement de libération nationale dont le responsable pour notre zone est le protestant Gilbert de Chambrun en été 1941. Et à Marseille, le mouvement plus modéré de François de Menton autour du journal Liberté, où nombre d'étudiants protestants de la Fédé vont adhérer. Un noyau d'étudiants gardois se forme autour du professeur Tedjen à Montpellier, avec parmi eux Aimé Amel Boniface, étudiant en droit à Montpellier, et Jean-Pierre Cabois. Notons également le rôle joué par des lycéens membres des éclaireurs unionistes autour des frères Bruguerolles, Georges Lafont ou Robert Brun.
Les deux mouvements fusionnent fin 1941 autour du journal Combat, avec comme responsable local Marceau Bonafou, originaire d'Anduze et décorateur à Nîmes. De même, le 30 mars 1941, les militants socialistes nîmois, comme Louis Salles, Albert Thomas, René Vaïs, participent à la création du Comité d'action socialiste Sud, prélude à la reconstitution d'une SFIO clandestine.
Parallèlement, sur consigne de Moscou, après la rupture du pacte germano-russe de juin 1941, plusieurs militants communistes entrent en clandestinité. Dans les villes ouvrières de Nîmes ou d'Alès, par exemple, ils sont nombreux, hommes comme femmes, à intégrer des réseaux de résistance comme agents de liaison et à distribuer clandestinement tracts et journaux. Avec une volonté affichée de prise de pouvoir sur le modèle de la Révolution russe, d'abord préoccupée de propagande, la résistance communiste s'oriente à partir de 1942 vers la mise en place des groupes FN-FTPF. Mais on dispose de très peu d'armes, fusils de chasse ou vieux fusils de 14, ou bien explosifs dérobés aux occupants.
Citons parmi eux Jean Robert. Il a 24 ans, militant communiste de Marseille où il était électricien, entré en résistance à Nîmes en février 1940. Il est marié et père d'un petit garçon. Il habitait au 21 rue Pelloutier, rue Pavé Consul sous Vichy. En mai 1942, il constitue l'équipe du Midi qui réalise les premiers sabotages ferroviaires dans la région nîmoise dès le deuxième semestre 1942. Et puis Vincent Feita, 25 ans, son ami d'enfance, communiste marseillais lui aussi, fils de réfugiés italiens, ayant fui le fascisme mussolinien.
D'autres groupes exploitent le mécontentement de la population, d'où la grève des mineurs du bassin d'Alès du 12 au 16 mars 1942. Les 16 et 17 septembre 1941, le pasteur Wissertz Hooft, secrétaire général du récent Conseil œcuménique des Églises, et Madeleine Barrault, secrétaire générale de la CIMAD, réunissent pasteurs et laïcs à Saint-Étienne-du-Grès dans la maison de rencontre de Pomerol, où les sols ne s'installeront qu'en 1950, pour rechercher ensemble ce que l'Église doit dire aujourd'hui au monde. Parmi les 12 pasteurs, beaucoup d'anciens de la Fédé.
Comme Georges Casalis, son secrétaire général, Jean Cadier de Montpellier et son ami Jacques de Ransard de la CIMAD, Jean Castambide, commissaire national des éclaireurs unionistes de France, le Suisse Roland de Pury, pasteur à Lyon, Henri Clavier de Strasbourg, Paul Connor d'Albi, Henri Eberhardt de Dieulefi, Pierre Courtial de La Voulte, Pierre Gagné de Nice, André de Robert du Tarn, André Vermeil, sont aussi présents Suzanne de Dietrich, venue de Genève, et René Courtin, professeur à la faculté de droit de Montpellier.
On rédige 8 thèses qui réaffirment la primauté de l'autorité divine sur les rapports de l'Église et de l'État qui doit respecter les libertés essentielles. Et on élève une protestation solennelle contre tout statut rejetant les Juifs hors des communautés humaines. Et l'on affirme que l'Église ne saurait présenter l'inévitable soumission au vainqueur comme un acte de libre adhésion. Elle considère comme une nécessité spirituelle la résistance à toute influence totalitaire et idolâtre. Ces thèses diffuseront dans les églises.
Installé à Lunel en octobre 1941, le pasteur Toureil est nommé à Nîmes par Vichy au fameux comité de coordination des groupes caritatifs chrétiens qu'il présidera quelques mois avant sa fermeture en novembre 1942. Une aumônerie de théoriquement 12 000 réfugiés protestants venus d'Allemagne, d'Autriche ou d'Europe centrale, mais en réalité, beaucoup de Juifs et d'Espagnols. Toureil crée alors la maison d'accueil chrétienne pour enfants à Vence et travaille avec la CIMAD pour organiser les secours d'urgence avec des subsides venus de France, de Suisse ou des États-Unis.
Débordé par la vague de réfugiés repoussés par les Allemands vers la zone sud, Vichy encourage au départ ses missions. Mais bientôt, des mesures répressives contre les réfugiés, en particulier juifs, se durcissent et les camps de détention deviennent des camps de déportation. Les missions caritatives se transforment en aide aux détenus en fuite vers l'Espagne et la Suisse grâce à de faux papiers. Plusieurs perquisitions de la Gestapo ont lieu en vain dans le bureau de Toureil, qui en été 1943 met à contribution des étudiants en théologie comme passeurs vers la Suisse pour des juifs germanophones de Lyon ou Grenoble.
Notons aussi plusieurs initiatives individuelles, plus ou moins coordonnées, pour accueillir des juifs et des renseignements. Ainsi, contrairement au maire socialiste Hubert Rouget, rallié en 40 à Pétain, l'avocat et conseiller municipal nîmois Charles Bedos, socialiste lui aussi, refuse toute forme de collaboration et s'oppose au commissariat général des questions juives dans ses plaidoiries au civil concernant la spoliation des biens des Juifs.
À partir de 1941, il s'associe à la résistance nîmoise et son domicile, pourtant voisin de la commandanture, sert de boîte à lettres à Marceau Bonafou. En mars 1942, Charles Bedos accepte de défendre le jeune militant communiste Henri Julien, pour lequel il fera disparaître des pièces compromettantes des dossiers.
De même, s'est formé à Nîmes un premier réseau que nous retrouverons sur les Gouales autour de René Rascalon, alias Alès. Natif d'Alès en 1898 et plombier à Nîmes, il avait acheté en 1938, avec son épouse Julia, un mazet avec Olivette le long de la route d'Alès à l'entrée ouest du chemin de l'Aubouillie. Durant la guerre, leur domicile était devenu rapidement un lieu de réunion pour 7 patriotes, dont Pascal Thomas, chef départemental militaire du MLN, et Encontre, sous-directeur de l'assistance publique du Gard. En 40, ceux-ci refusent la défaite et la propagande de Vichy sur les ouvriers et sabotent des véhicules du service d'ordre légionnaire.
Silence des épouses, attendant le retour des prisonniers. Prise de conscience. Début de résistance encore bien discret, en ce début 1942, mais mise en place d'un terreau favorable. Et deux phénomènes vont venir accélérer les choses, le STO, service de travail obligatoire, et les mesures antisémites. Nous les étudierons dans une prochaine émission.
Je viens de fermer ma fenêtre, le brouillard qui tombe est glacé. Jusque dans ma chambre, il pénètre, notre chambre où meurt le passé. Je suis seule ce soir avec mes rêves. Je suis seule ce soir sans ton amour. Le jour tombe, ma joie s'achève, tout se brise dans mon cœur lourd. Je suis seule ce soir avec ma peine. J'ai perdu l'espoir de ton retour. Et pourtant, je t'aime encore et pour toujours. Ne me laisse pas seule sans ton amour. Dans la cheminée, le vent pleure, les roses, ses feuilles sans bruit. L'horloge en marquant les quarts d'heure d'un son grêle berce l'ennui. Je suis seule ce soir avec mes rêves. Je suis seule ce soir sans ton amour. Le jour tombe, ma joie s'achève, tout se brise dans mon cœur lourd. Je suis seule ce soir avec ma peine. J'ai perdu l'espoir de ton retour. Et pourtant, je t'aime encore et pour toujours. Ne me laisse pas seule sans ton amour.